Radio G 101.5 FM.
Le manche disque. L'émission qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. À 33 tours minutes.
Et salut chers auditeurs, bienvenue
salut,
dans
salut.
Manche Disque.
Oui, c'est bienvenue.
Julien et Nico une nouvelle fois. On est les seuls encore concernés par ce satané couvre-feu.
Injustice.
Je crois que, je sais pas, je me retourne vers la grille, mais je crois qu'on doit être les seuls avec Harvest. Peut-être.
Ouais, Harvest qui doit pas
métallique.
Pouvoir finir.
Ouais.
Ça dégouline dans le cornet.
Non, ça dégouline dans le cornet. Ils ont changé d'horaire maintenant. Ils sont
d'horaire.
Avant nous.
D'accord.
Ils sont avant nous, donc bon voilà, bref. On a encore les joies, nous, d'enregistrer en différé.
Ouais.
Mais on est toujours là.
On s'imagine qu'on est la nuit.
Voilà, il fait beau, on est dans les conditions du direct, donc c'est pratiquement pareil, finalement. Et on va démarrer avec un morceau de ta sélection, Julien, dont
tout
on parlera peut-être juste après.
Très bien, c'est parti, en voiture.
We'll be right back.
et Davaï, c'était Thilacine, un artiste local, un artiste angevin, un groupe, un collectif, mais mené par un artiste angevin notamment, qui a composé avec cet album qui s'appelle Transsibérian, de sublimes morceaux, justement inspirés et composés en partie durant son voyage qui a duré 2 semaines dans le Transsibérien. Donc ce que je vous avais entendu au début, les petits gamins, c'est Ahai et Mandorai qui chantent, une petite comptine qu'il a intégrée, parce qu'il intègre également des bruits d'ambiance, des annonces de train, des bruits du rail, etc., des bruits de la gare. Et puis évidemment, après cette espèce d'électro un peu ambiante, un peu répétitive.
De trance,
exactement, qui est celle qu'on peut imaginer en traversant ces grandes étendues, ces immenses étendues. Transsibérien, c'est quelque chose comme 10 000 km de long, je crois.
En plus. Excellent.
Oui, en plus, c'est parfait.
Excellent. Donc ça fait penser à, tu sais, pendant le confinement, je sais pas si nos auditeurs ont fait la même chose, mais je me rappelle qu'on avait eu un échange tous les deux confinés lors du premier confinement où tu m'avais envoyé une vidéo d'un truc en train qui filmait à l'avant d'une locomotive.
C'est
en fait,
ça.
Et on voyait les paysages défiler. Et à une époque, on était tous enfermés chez nous en manque de perspective.
Oui,
en fait.
Tout à fait.
Ça donnait une impression de liberté assez intéressante.
C'était le Bergen-Oslo. En Norvège, un trajet de plusieurs heures qui est parmi un des plus beaux du monde parce qu'on traverse des fjords, des paysages somptueux. Et effectivement,
excellent.
Quelqu'un s'est mis devant ou a placé une caméra, je pense.
Ouais,
et
je pense
on a tout,
GoPro,
tout l'allé dans une vidéo YouTube que
excellent.
Je vous conseille si vous avez 7 heures à.
C'est ça, elle dure 7 heures, donc moi j'ai pas fait l'intégrale. Mais par contre, j'avais mis ça et je me mettais dans les oreilles, pour revenir à l'émission et à la thématique quand même, je me mettais dans les oreilles donc mes disques vinyles avec un casque audio, parce que c'était un peu la nuit et donc j'avais mes enfants qui dormaient et tout. Donc j'ai mis un peu fort, mais casque sur les oreilles, la platine reliée au casque et cette vidéo-là, et ça m'avait donné vraiment un petit souffle de liberté de voir des paysages lointains. Ça te donnait, dans un moment on étouffait un petit peu d'air. Voilà. Mais je vais enchaîner maintenant avec quelque chose qui va nous ramener plutôt dans les années 80, à la fin d'ailleurs des
très
années
bien.
80, mais
très bonne chose.
Une artiste qui est très identifiée à cette décennie, qui est Cyndi Lauper.
Oui.
Cyndi Lauper que l'on connaît principalement pour son premier album, She's So Unusual,
ouais.
Dans lesquels on trouvait les titres phares du type Girls Who Just Wanna Have Fun. Mm-hmm. Et puis un troisième qui m'échappe de cet album qui était aussi très très connu. Mais
et puis il y a eu True Colors après.
True Colors, c'est le deuxième album après.
Ouais, un peu plus posé, un peu.
Mais son premier album, c'est vraiment concentré
une
de tubes. Mm-hmm. Et c'est une perle absolument indispensable pour ceux qui aiment cette décennie et qui aiment ce son. Cyndi Lauper, c'est aussi une artiste qui est vraiment très cool en dehors de sa musique, parce que c'est une femme engagée.
Ouais.
Elle est toujours dans le game d'ailleurs, un petit peu plus loin forcément, mais elle est toujours là. Et puis elle s'engage politiquement aussi pour notamment la défense des droits LGBT, etc.
Donc et elle était très liée aussi, alors c'est anecdotique, mais au monde du catch. Dans ses clips apparaissent de nombreux catcheurs des années 80, des emblèmes de cette époque-là.
Mais c'est sûr que c'est un univers, hein. C'est un univers Cyndi Lauper. Et donc, moi j'ai chopé un petit peu par hasard un album qui s'est beaucoup moins vendu que les deux qu'on a cités, qui s'appelle A Night to Remember, qui est sorti donc en 1989, qui contient un seul titre qui a eu vraiment du succès, le single I Drove All Night, que je vous conseille. C'est pas celui-là que je vais vous passer plutôt le titre, justement le morceau titre A Night to Remember, qui commence la phase B. Et vous allez voir, pour moi c'est un album qui mérite vraiment d'être écouté. Il y a parfois dans la carrière même des artistes qu'on aime bien, des albums où on se dit bon, ben là effectivement peut-être
plus mineurs, où ils ont été moins médiatisés, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins méritants.
Celui-là, je pense qu'il est moins, j'ai compris pourquoi il a pas marché, parce que je pense qu'il est moins dans ce que les gens à cette période appréciaient et attendaient d'elle.
Il y a eu
un petit pas de côté sur certaines choses, mais pour autant quand on l'écoute avec le recul justement, et quand on l'écoute avec des oreilles un petit peu on va dire
lavées
un peu des attentes et puis des carcans dans lesquels des fois on met les artistes, on se dit que c'est vraiment pas mal. Il y a des mélodies franchement chouettes, et puis vous allez peut-être vous en apercevoir avec cet album ce morceau A Night to Remember qui illustre qui est du Cyndi Lauper comme on l'aime.
Le manche disque.
Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne sur ce Scud.
Oui,
et
bah c'est pour aller jusqu'au bout de la nuit.
C'est ça, c'est ça. C'est un disque qui est fait pour aller jusqu'au bout de la nuit. C'est une compilation de Chalamar, bien sûr, que vous aurez reconnu. Et on vient de s'écouter le morceau A Night to Remember, bien sûr, enchaîné avec celui de Cyndi Lauper. Je me suis un petit peu amusé à enchaîner deux morceaux qui ont le même titre. et qui sont issus aussi des années 80, puisque ce Night to Remember, que grand classique du disco funk, c'est 82. Je disais tout à l'heure que Cyndi Lauper, c'était 89. Mais voilà, donc un grand classique d'un groupe qui a marqué quand même cette transition 70-80 et qui s'est bien ancré dans les années 80 avec le disco funk dans un niveau que moi je trouve indémodable, parce que vous passez ce morceau en soirée, c'est toujours un succès, comme disait l'autre. Voilà, on est sur quelque chose de très très bien, issu de leur album qui s'appelait Friends, qui est leur dernier bon album, je pense, Chalamar. Mais moi, voilà, plus pragmatiquement, je me suis penché sur cette compilation que je vous conseille en double album, une compilation qui était sortie en France, qui s'appelait Chalamar, les Hits.
Et on voit le 80 minutes non-stop, donc je pense que les morceaux s'enchaînent tous, non ?
C'est même ça 80 minutes non-stop, c'est à la française.
Oui, pardon.
C'est à la française.
C'est trop English.
C'est trop English.
Et donc, c'est pour ça que les morceaux s'enchaînent. Je pense
Exactement.
Que c'est peut-être fait comme un DJ à la maison, quoi, en fait.
Exactement.
Vous avez votre DJ,
c'est sorti
DJ.
En 1987 chez Vogue. Voilà, Vogue, qui est un très bon label français, n'est-ce pas ? Voilà.
Eh ben on reste dans les années 80 et on reste dans le funk, mais cette fois-ci avec un côté un peu plus jazz funk et même Japanese jazz funk, puisque je vais vous passer un morceau d'une compilation qui s'appelle Japanese Jazz Funk and Rare Groove, qui compile des morceaux de 1968 à 1980, sélectionnés par DJ Yoshizawa Dynamite, GP and Shintam. Donc en fait, c'est une collection qui est visiblement tirée d'un ouvrage de DJ Yoshizawa Dynamite, puisqu'il a publié un livre qui s'appelait Wamono A to Z, puisque c'est le style Wamono, hein, dans lequel il les collectionne, il en passe beaucoup et tout. Et il y a eu des compilations donc, qui ont été faites. Là, c'est le volume 1. Il y a eu un volume 2 qui est sorti très récemment. Visiblement, il y a un volume 3 qui a l'air d'être prévu. Un peu plus disco et boogie. Et là, sur ce volume 1, donc 1968-1980, c'est un morceau de 1980 de Takeo Yamashita qui s'appelle A Touch of Japanese Tone.
A Touch of Japanese Tone! We'll be right back.
Ah, les Japonais, les Japonais.
Voilà, sur le manche disque Radio G 101.5.
Ils sont bien talentueux.
Avec cette petite flûte là, c'était bien.
Ah oui, c'était très 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 bien. Et qui dit funk?
Ouais, là on est dans un tourbillon funk.
On est dans un tourbillon funk et donc retour aux sources du funk avec à venir un morceau des JB's. Tu vois qui c'est les JB's?
Oui, tout à fait. Le backing band de James Brown, n'est-ce pas, c'est ça?
Tout à fait, le deuxième. Très exactement, backing band de James Brown à partir des années 70, puisque l'ancienne bande à James Brown a à un moment donné essayé une espèce de putsch en disant voilà, on n'est pas payé assez cher, c'est un scandale, on se barre si tu continues, nous aussi on fait partie du succès, de ton succès, etc. Et James Brown,
très diplomate,
et avec le caractère qu'on lui connaît, il a dit bah, écoutez, barrez-vous, je me refais un autre groupe et vous allez voir ce que vous allez voir. Ben il a gagné son pari. Ouais. Il a gagné son pari, tant et si bien que d'ailleurs certains membres fondateurs de la première époque ont finalement réintégré les JB's. Hein. Mmh. On pense à Fred Wesley, on pense à Maceo Parker notamment. Il y a un certain Bootsy Collins qui fait partie de, qui a commencé en fait finalement l'aventure en même temps que le changement de groupe. Du coup, Bootsy Collins et son frère aussi, les deux frères Collins. Donc c'est une grande époque en fait, hein, de la carrière de James Brown, mais aussi du funk, parce que ça a vraiment été un tournant aussi. C'est-à-dire toutes ces nouvelles personnes ont apporté vraiment leurs pattes et un son qui fait pratiquement que maintenant le véritable orchestre de James Brown dans la tête de beaucoup, bah c'est eux. Ouais. C'est pas forcément les premiers, même si voilà, on ne s'en enlève rien du tout. Je veux pas choquer les puristes, hein, et les connaisseurs de James Brown depuis le début. Ça n'enlève rien du tout au fait que c'était une période géniale aussi avant. Mais voilà, le côté funky en fait
est venu avec eux,
et peut-être a été marqué en tout cas davantage avec eux. En tout cas, ouais, c'est mon point de vue.
Ce qui fait qu'ils ont sorti donc des disques de leur côté pour le coup, et plus d'un quoi.
Alors de leur côté, oui et non, parce que c'est quand même des produits, j'allais dire. C'est quand même des albums produits par James Brown et où il figure même en vocal, donc c'est tout ça en fait, c'est des morceaux aussi qui sont signés James Brown, donc produits par James Brown, donc tout ça c'est chapeauté par James Brown, donc c'est pas du tout un projet parallèle ou quoi que ce soit, c'est des disques qui sortent de la même usine on va dire, et qui nourrissent les mêmes personnes, donc voilà, c'est un tout, voilà, c'est un tout. Il y a certains albums, on sait pas trop pourquoi sont signés James Brown, d'autres plus JB's.
Peut-être avait-il mis un peu d'eau dans son vin en leur permettant de, et en faisant peut-être un coup de pousse aussi finalement,
ça les met un petit peu en lumière,
un peu
voilà, ça les met un petit peu en lumière comme autre chose que un backing group quoi, donc je vous propose d'écouter un morceau qui est assez long comme dans la pure tradition funky, qui s'appelle More Peace.
Yeah, yeah. Can we do it again?
Yeah, yeah.
Can we do it again?
Yeah, yeah.
I need to do it again.
Yeah, yeah.
Do it.
Give me some more. Everybody says yeah, down home. We'll give him a little bitty bit. We'll give you a small potion. Yeah. But now don't you want no more, boy. You better get away from there. You start asking too much. Fred, now Jazz, you better stay in there and help him. We let him go a little bit by himself. But if he lose the funk, we got to chunk him out.
Et voilà, sur un petit fond des JB's, j'ai oublié de vous dire justement l'album dont est issu ce titre, More Peace. C'est Doing It to Death, voilà, un album de 1973, donc on est au plein cœur de la période JB's de James Brown, et voilà, pour notre plus grand bonheur, puisqu'il faut se souvenir quand même des racines du funk, et parfois régulièrement se rendre compte à quel point c'était énorme, dans le sens où ça n'a pas pris une ride, et où des années plus tard, des décennies plus tard, c'est toujours le même kiff, la même
Exactement.
Essence, voilà.
Eh ben on va reculer juste d'une petite année avec un petit peu de Boogaloo et le groupe de Joey Bataan, donc qui en 1972 chez Fania Records sort un album qui s'appelle Saint Latin's Day Massacre, où on le voit brandir un fusil et plein de gens morts autour de lui qui sont probablement ses musiciens. Donc c'est bon, c'est un thème avec des pierres tombales déguisées sur le côté, tout ça. Ça paraît un petit peu morbide, mais en fait pas tant que ça. Même si le disque en lui-même est construit sur les deux faces que nous connaissons tous en tant qu'amateurs de vinyle, le côté face A, face B, bah lui il y a un face life et un face death. Et je vous propose le premier morceau de la face death qui s'appelle Charangaringa. Aye.
Gracias.
Brian Johnstone Massacre à l'instant, avec un morceau de Take It From The Man, l'album de 1997, si je ne dis pas de bêtises.
Quel album ?
Oui, c'est une pépite. Et là, on a écouté David Bowie, I Love You Since I Was Six, qui est un titre que j'aurais pu écrire.
Ah, ce que j'allais dire, un choix.
Enfin, juste le titre, hein, pas le morceau. Hein,
ouais, mais, oui. Voilà. Un choix de morceau complètement au hasard. Je suis sûr, te connaissant.
Eh ben oui, mais non, en fait, parce que je me rappelais vaguement, mais j'avais pas fait attention au titre, et je suis tombé sur ce morceau. Je me suis dit, mais c'est une pépite. Il m'a fait penser à Beyrouth, il m'a fait penser à Devotchka, une sensibilité énorme. Je dis bon, celui-là, je le passe. Comment s'appelle-t-il ? Ah bah tiens, voilà, c'était celui-là. Ça tombe bien.
Eh ben oui, ça tombe carrément bien. Comme quoi, il y a quelque chose peut-être dans ce morceau, même si c'est pas évident comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui relie ce morceau à David Bowie, ouais, et donc à tes goûts, et donc qui a matché à un moment donné, parce qu'un grand fan de David Bowie, pour les auditeurs qui nous découvriraient et qui ne connaîtraient pas encore assez bien, voilà, c'est. Je crois pas trop qu'il y ait que du hasard dans cette affaire.
Non, je pense pas. Ça fait penser un peu à ce qu'il aurait pu chanter à sa période Hunky Dory, par exemple, un peu, je trouve. Mais oui, c'est vrai que ça fait un pas de côté, mais ouais, il y a quelque chose, forcément.
Bon, ben écoute, puisqu'on a clôturé avec ce morceau, peut-être un petit peu aussi avec celui d'avant, notre grande page funk, je sais pas, qui, involontaire d'ailleurs, hein, qui s'est enchaîné comme ça. Voilà,
on arrive avec nos disques et on communique pas avant. C'est spontané. Hein.
C'est ce qui donne un petit côté parfois incohérent, mais toujours imprévisible. Et c'est ça qui est beau dans le manger.
Et de bon goût.
Et toujours de bon goût, bien sûr, parce qu'on a bon goût. Donc il n'y a pas de raison qu'on passe des trucs qu'on n'aime pas. Je vais vous passer maintenant un morceau. Peut-on dire rock d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que c'est un morceau du groupe australien King Gizzard and Lizard Wizard.
Oui.
Mais vous allez voir, c'est pas issu de n'importe quel album, même album, j'hésite à le dire, puisque c'est issu de dernièrement, des années en 2020, ils ont sorti deux volumes de leurs démos, en fait, de trucs qu'ils avaient gardés, en fait, dans les tiroirs. Et, en fait, c'est vrai que pour ceux qui suivent ce groupe,
ils sont très, très productifs.
C'est un groupe qui publie tout, en fait.
Ah ouais.
Ils publient tout ce qu'ils font. Voilà, ah ouais. Tout ce qu'ils
font. Et puis, un peu dans tous les styles du rock, on va dire, quoi. Ils explorent vraiment.
Du rock, même, j'ai envie de dire, un peu au-delà, quand même, quoi. Ils sont à fond dans les... en tout cas, ces démos-là, elles le révèlent d'autant plus parce qu'ils sont estampillés rock psyché, hein, clairement. Mais vous allez voir, avec le morceau que je vous ai choisi, on va bien en avoir une bonne démonstration. Ils vont aussi piocher dans des trucs un peu électro, limite techno. Il y a, là, je ne l'ai pas mis, mais il y a des trucs death metal. Là,
oui, un peu heavy des années 80 pour
très,
un des derniers
heavy,
albums,
mais,
justement.
Très, 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 très lourd. Là. Bon, ce n'est pas celui que j'ai choisi. Hein, mais voilà, enfin, je vous encourage à aller vous pencher sur ces deux démos, alors qui portent des noms assez clairs, hein, démo volume 1, démo volume 2.
Oui.
Donc je vous encourage à aller piocher là-dedans parce que c'est vraiment très très intéressant. Si vous aimez ce groupe, il faut aller fouiller un petit peu dans les fonds de tiroirs.
C'est pas juste les chutes de choses un peu nulles.
Non.
Il y a une vraie valeur. Quoi.
Non, moi franchement, je prends beaucoup de plaisir à les écouter et voilà, je me dis juste qu'à un moment donné, c'est des choses dont ils n'ont pas peut-être su quoi faire forcément, puisque c'est resté au stade de démo, mais bon, publier quand même parce que finalement, c'est pas mal et donc ça vaut le coup d'être écouté. On va se donner un petit aperçu avec Music to Kill Bad People 2. continuité dans cet univers.
Oui. Ah oui, oui, tout à fait.
Sombre et électronique.
Presque indus, hein, avec des petits.
C'est clair qu'on n'était pas loin de l'indus.
Hein. Indus.
Clairement.
La transition est toute faite pour ce dernier morceau, déjà, parce qu'il est l'heure de se quitter quasiment. Hein,
et oui, le temps d'un dernier morceau, et ce sera l'heure de rendre l'antenne.
Alors, traditionnellement, depuis cette saison du Manche Disque, on est sur Brown Acid. Alors, je vous avoue que je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans les 12, donc je ne sais pas si j'ai passé vraiment un morceau de chaque.
On s'en fout.
On s'en fout un peu, ce qui fait que je suis
revenu toujours bon
vers le troisième trip qui était sorti en 2016, parce que c'est un numéro que je conseille, à la limite, si vous voulez commencer les Brown Acid, ça peut être pas mal. La dernière fois, on avait passé, si mes souvenirs sont bons, un groupe de Washington, de l'état de Washington, de Seattle, la ville, 1970, Grand Theft. Et là, je vous propose un des deux groupes, en fait, qui ne viennent pas de ces bons vieux États-Unis, puisque ce Brown Acid numéro 3 intègre un groupe australien qui s'appelle Chook et un groupe anglais qui s'appelle Factory. Donc voilà la transition, hein, d'usine qui est toute faite. Ils sont de l'East Sussex. Ils ont sorti ce morceau en 1971, peut-être inspiré par Dr. Who, j'en sais rien, parce que ça s'appelle Time Machine.
Génial.
Donc je vous propose d'écouter donc ce morceau du groupe Factory, issu du Brown Acid numéro 3 chez Riding Easy Records, une compilation qu'on adore.
Et on se donne rendez-vous
dans 15 jours.
Dans 15 jours, voilà. Ciao, ciao.
Ciao.